je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, bonjour, que demeuriez grad vor Mittagessen fängt unsere Sendung an. Mach mir ein Plätzle. Les émissions radio se suivent et ne se ressemblent pas du tout l'une à l'autre. Fais-moi une place, le titre de mon émission. Je vous fais découvrir des personnes qui sont tous mes héros. Je les porte sur les ondes du 102.9 jusqu'à vous, chères grandes oreilles, avec joie et un bonheur renouvelé. Alors André Muller, parle-moi de ton invité surprise. Ben, je vais vous la présenter. C'est une charmante boulangère et les amateurs du pain de Quentin à Marlenheim accourent dès qu'elle vend le pain au marché. Mais quel est son secret d'avoir autant de succès? Autant de succès, c'est la question que je me pose et nous allons faire une petite enquête. Bonjour Sophie, content de partager cette demi-heure avec toi devant cette forêt de micros et notre Thomas dans le studio.
Bonjour, bonjour André, bonjour les auditeurs, bonjour Thomas. Eh ben, c'est un plaisir partagé André, c'est toujours un plaisir de...
Comment vas-tu Sophie ce matin?
Mais merveilleusement bien, comme un bon froid hivernal mais ensoleillé. Donc,
tu viens de ta campagne profonde?
Oui, de Marlenheim.
Alors moi tout de suite, on rentre tout de suite dans le vif du sujet au marché Place Bordeaux. Tous les mardis et samedis matin que je me balade avec ma corbeille devant ton stand, mais il y a une queue incroyable. Est-ce que tu le vends gratuitement ton pain?
Non, alors j'adorerais hein, si ça tenait qu'à moi évidemment, mais on doit tous subvenir à nos besoins. Mais effectivement, moi-même, je suis honorée et surprise. Je le dis souvent à mes clients d'avoir autant de monde derrière le stand.
C'est incroyable. On peut presque plus passer devant ton. Il faut faire une place si c'est.
Oui, je sais que mes voisins, constatent ça un petit peu, mais ils sont hyper.
Ils te jalousent un peu?
Non, au contraire, il y a un lien super. Très sympathique entre nous, mais c'est vrai que je le fais souvent remarquer aux clients, hein, que ça me touche beaucoup. Après, voilà, moi, j'ai l'impression que tout le monde vient avec le sourire, la bonne humeur à chaque fois. Moi, c'est ce que j'essaye de transmettre.
Mais ton sourire est contagieux, Sophie. Je pense que c'est ça aussi. C'est comme un miroir, tu sais, qui se reflète. C'est peut-être ça, tu vois. Mais c'est vrai que la qualité du pain, il est indéniable. C'est vrai que tu vends du bon pain bio qui vient de Morlaix.
De Morlaix, oui, tout à fait.
Mais tu n'es pas boulangère.
Pas du tout. Moi, je me suis mis à mon compte pour revendre les produits de petits producteurs. Donc là, je travaille avec Quentin, notamment, qui est un super boulanger, qui fait son levain à l'ancienne avec ses mains, qui est passionné. Et moi-même, j'aime beaucoup être auprès des producteurs, comprendre comment ils travaillent. Voilà, il y a Quentin et il y en a d'autres avec qui j'aime bien.
Tu fais d'autres marchés que la Place Bordeaux?
Alors, je fais Place de Bordeaux, effectivement, le mardi, le samedi. Je suis aussi le vendredi matin à Lingolsheim.
Mais tu n'es pas à Marlenheim ou tu n'es pas dans d'autres?
Du tout.
Des fois, tu fais des remplacements quand il manque quelqu'un?
Non, pas du tout. Alors, je ne travaille pas, je ne suis pas salarié au sein de la boulangerie. Hein. Je suis vraiment. Voilà, j'ai décidé un jour d'acheter mon petit van, de charger mes petits produits de petits producteurs, de me mettre à mon compte.
Ton petit van bleu qui est devant la.
Mon petit van bleu, tout à fait.
C'est avec celui-là que tu vas voir les étoiles au champ du feu.
Tout à fait. Voilà, c'est avec celui-là que je cueille les étoiles parce que c'est un van qui est aménagé autant pour le marché et autant avec une structure amovible pour voyager. Avec, donc j'ai fait des petites balades avec, en France et au-delà.
On parlera de petits voyages tout à l'heure.
Oui.
Et alors, d'après moi, tu pourrais tout vendre. Tu pourrais vendre au-delà du pain. Tu pourrais vendre des chaussettes à un cul-de-jatte. C'est pas très gentil de dire ça. Mais c'est vrai que tu pourrais tout vendre avec ton sourire.
Alors, ça me touche beaucoup. Alors, je sais pas si c'est avec le sourire, mais merci en tout cas de me dire ça. Après, je pense que c'est l'entièreté que j'ai peut-être et la sympathie. Après, j'avance toujours dans la vie en étant très positif, c'est sûr, j'aime aussi donner ce que j'aimerais recevoir en retour quand je vais dans un commerce ou auprès d'un artisan.
C'est évident.
C'est évident.
Quand tu as un sourire, tu le reçois. Alors samedi, j'étais avec mon petit panier et un petit magnéto dans mon panier, poser des questions à une charmante dame qui était dans la longue file. Il y avait une longue file. Et comme on a attendu, je lui ai posé une question avec mon magnéto. Thomas, balance-nous le magnéto pour écouter cette gentille dame.
Alors dites-moi, vous attendez là la boulangère, pourquoi vous attendez, vous achetez le pain chez elle?
Parce que déjà, c'est la plus radieuse boulangère que j'ai vue toute ma vie, elle est adorable et ses produits sont fantastiques. Donc franchement, là, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, et c'est au marché, donc c'est que du bonheur.
Vous pensez que le côté radieux, comme vous dites, ça fait pendre aussi un peu son pain?
Ah bah oui, par les temps qui courent, avoir une commerçante qui discute, qui demande des nouvelles, qui rigole, qui vous raconte... La pluie et le beau temps, il n'y a pas mieux. Quoi.
Et alors, c'est quoi son pain préféré?
Son pain préféré ?
Non, le pain que vous préférez, pardon.
Ah, le pain que je... moi, c'est le Valkyrie. C'est un pain aux graines très complet et très dense, et en plus, qui se garde pratiquement une semaine.
Donc d'une semaine à l'autre.
Pareil, voilà. Et puis après, il y a les petits extras, les bretzels, les beignets quand c'est la saison, les fougasses pour l'apéro. Enfin, on trouve tout.
Extraordinaire.
Ah bah franchement, moi je vais nulle part ailleurs. Hein.
Que du bonheur.
Que du bonheur.
Tu vois, Sophie, tu peux l'engager, elle. Elle te fera la com et tout, elle est géniale.
Elle est géniale, mais elle s'appelle Anne, elle est géniale.
Mais c'est pas la seule qui dit ça. Mais en fait, quand je te vois au marché, tu connais le prénom de tout le monde. Tu connais les enfants, tu connais la famille, tu poses des questions, voilà.
Oui, c'est vrai que j'essaye de m'intéresser vraiment, enfin ça, c'est en toute honnêteté, hein. J'aime m'intéresser à mes clients, j'aime comprendre d'où ils viennent, j'aime voilà, prendre des nouvelles aussi, il y a des hauts et des bas et on parle de tout au marché.
T'es un peu dur de psy.
Ouais, si on peut dire ça, ouais. Une psy à éducation positive.
Hein. Exactement. Et c'est noble de vendre du pain, hein. C'est quand même un produit essentiel
pour
la santé et tout, tu vois.
Tout à fait. Il y a des mœurs qui changent et les gens vraiment veulent bien consommer. Ça se sent aujourd'hui.
Alors Sophie, là maintenant, va écouter pour reposer les oreilles une petite musiquette qui va nous emmener ailleurs. Vas-y voir Thomas, mets-nous voir le vent qui souffle sur les nuages et l'emmène au lointain.
Qu'on y goûte des méandres au creux des reins et tout ira bien. Le vent nous portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera.
Alors Sophie, c'est une belle musiquette, hein, jazzy, je vois que tu as apprécié. Dis-moi, ce vent, il t'a emporté où ? Au-delà des nuages, au lointain, à l'autre bout du monde ? Tu as beaucoup voyagé, tu es une sorte de globe-trotteuse, croqueuse de la vie ailleurs ?
Alors oui, le vent m'a emporté très très loin. Il m'a emporté en premier lieu au-delà de la France, en Nouvelle-Zélande, quand j'ai décidé de partir effectivement à l'autre bout du monde avec mon sac à dos.
Il n'y a pas plus loin ?
Il n'y a pas plus loin, absolument. Nouvelle-Zélande, Tasmanie, l'île au sud de l'Australie. Voilà, c'est vraiment les points opposés à la France. Donc, je suis partie effectivement avec mon sac à dos en me disant qu'il fallait que je croque la vie, que je cueille les étoiles un peu partout dans le monde.
Ah, c'est beau comment tu parles.
Voilà. Et que je m'inspire aussi de plein d'autres cultures, que je comprenne un petit peu comment ça se passe ailleurs. Parce que je pense que quand on va ailleurs, on en revient vraiment... on en revient un peu, comment on peut dire, éduqué au niveau...
De l'humblicité, être humble.
Exactement. Merci André.
Humblicité, c'est beau.
Ouais, humblicité, c'est très beau. On va garder ce mot. Et on en revient avec une belle ouverture d'esprit aussi. Et surtout, quand on va dans un autre pays, on se plie au fonctionnement du pays.
Mais parle-moi de Wellington. Qu'est-ce que tu as fait là-bas, à l'autre bout du monde ? Tu as fait quoi ? Tous les jours, tu faisais quoi là-bas ?
Alors, c'était très varié. Donc, en Nouvelle-Zélande, j'ai voyagé d'abord avec des copains. Donc, je ne suis pas partie tout de suite toute seule. On a traversé l'île du Nord, l'île du Sud. Et après, je suis partie. J'ai pris la décision d'aller toute seule en Australie pour parfaire mon anglais déjà et avoir des expériences professionnelles là-bas. J'ai travaillé.
Et c'était facile de travailler à l'autre bout du monde ? Alors, il faut une carte verte, non ?
Il faut un visa de travail, donc c'est des démarches assez rapides sur Internet. Et ensuite, après, ça dépend aussi un petit peu de son tempérament, mais je pense qu'à un moment, il faut y aller franchement. On arrive dans un pays où on parle ni la langue, on n'a pas de logement, on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille, on n'a rien. Donc c'est très beau parce qu'on est adulte, moi j'avais 23 ans, quelque chose comme ça, et on repart de zéro. Donc c'est un super challenge, un super projet aussi de vie, dans la vie disons. Et donc on toque aux portes, on essaye de baragouiner avec notre petit anglais. Et donc petit à petit, j'ai réussi à trouver des gens qui m'ont pris sur leurs ailes, qui ont accepté de me donner du travail en Australie.
Mais c'est quoi, par exemple, en Australie, t'as fait quoi ? T'as vendu des carottes ?
Eh ben, j'ai vendu du pain, figure-toi.
Du pain aussi ? Ouais, ouais. Ah ouais, d'accord.
J'ai vendu
du pain
aussi sur les marchés.
Il est pas bon leur pain, c'est du pain carré, non ?
Ouais,
du chewing-gum.
Allez, de toi à moi, il était pas incroyable. Mais bon, là, j'ai dû un petit peu baragouiner quand même auprès des gens. Donc j'ai vendu du pain sur les marchés aussi. J'ai cueilli des fraises, des framboises, des mûres. Voilà, j'ai vécu dans une ferme avec. C'était très cosmopolite.
C'est génial ce que tu as vécu.
Extraordinaire.
Dans une ferme.
Dans une ferme,
wow.
Ouais. Bon, c'est assez courant en Australie pour
t'as
les gens.
Tu as dormi dans la paille avec les animaux.
Ah, pas loin. J'ai dormi dans une tente sur un champ, effectivement, pendant 3 mois.
Wow.
Avec, voilà, on a, comme si tu aménageais une maison, bah, j'ai aménagé une grande tente. Hein, j'y ai mis ma petite touche personnelle. Voilà.
Oui, ouais, mais Sophie, tout le monde ne peut pas faire ça. Il faut avoir déjà une envie de partir, de barouder, quoi.
Oui.
Il faut
avoir l'envie de partir, l'envie de découvrir et surtout l'envie de s'adapter. Et ça, c'est très important parce que voilà, tout le monde n'a pas envie de s'adapter à d'autres environnements. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui nous fait grandir, hein, sincèrement.
Oui, parce qu'on va le dire un peu plus tard, mais partir, c'est apprendre.
Partir,
évidemment.
C'est apprendre. C'est apprendre.
Alors, parle-moi un petit peu des paysages. On ferme les yeux. Parle-moi des paysages de rêve du côté de l'Australie, ce sable rouge, les kangourous.
Oui, alors les paysages de l'Australie, tout à fait. Moi, je dirais plutôt même ce sable blanc. J'ai des souvenirs de plages magnifiques. Lucky Bay, notamment une baie, par exemple, qui me vient à l'esprit. Sable blanc, très fin. L'eau, voilà, un bleu azur à perte de vue. Des rochers qui sont un petit peu orangés avec une petite mousse un peu orangée dessus.
C'est génial. On va te mettre une petite musiquette avec Thomas qui va te rappeler un petit peu les beaux surfeurs blondinés aux tablettes de chocolat.
Oui.
Vas-y voir, mets-nous voir cette musiquette, Thomas, s'il te plaît.
Follow the sun, which way the wind blows. When this day is done, breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon and brand new sun.
Alors, parle-moi un petit peu de cette chanson. Je vois que tu as eu la chair de poule.
Oui, tout à fait. C'est ce que je t'ai fait signe, effectivement. Ça me donne des frissons à chaque fois que j'écoute ça. Xavier Rudd, un artiste australien, effectivement. Et Follow the Sun, ça a tout son sens dans ce que j'ai vécu pendant ces 3 années où je suis partie. J'ai toujours suivi le soleil, voilà, au-delà des frontières, comme dit, en Australie. Après, j'ai parcouru l'Asie.
Attends, on va d'abord parler d'Australie.
Ah oui, l'Australie, bien sûr.
Parle-moi un petit peu de ces beaux gosses, ces surfeurs, là, aux tablettes de chocolat, les blondinés. Tu les as matés un peu, dis-moi.
Ouais, bon, les a
avec ton regard lumineux.
Oui.
Je pense que
on les a matés discrètement au loin. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, on vit d'expérience là-bas, on rencontre des gens de tout horizon. Effectivement, le cliché surfeur est vrai et juste là-bas. Le cliché aussi, alors bon, ça c'était moi, c'est horrible de dire ça, ma marchandise. Non, mais c'était moi, ma tasse de thé, on va dire, voilà, les mecs de la salle, voilà, c'est très australien.
Ouais, parce que je sais que le week-end, par exemple, du jeudi au vendredi, ils se retrouvent tous ensemble dans les bistrots.
Oui.
Ils ont les bouteilles d'alcool dans des sachets en craft,
en
là,
craft.
Voilà.
On appelle ça du goon là-bas.
C'est ça, parce qu'on n'a pas le droit de se promener avec des bouteilles dans la rue.
Mais
alors j'ai un souvenir, moi, dans les grands restaurants, les gens étaient tous attablés, des grandes tables monastères comme ça, et tout le monde était en quinconce et se parlait, quoi.
Oui, en quelque sorte, oui. Après, voilà, c'est vrai qu'en Australie, oui, ils sont un peu stricts là-dessus, sur la consommation d'alcool dans les rues. Je pense que ça revient aussi à tout ce qui est culture aborigène, malheureusement, aujourd'hui.
Et c'est un pays très libre. Hein. Je sais que les garçons se donnaient la main, ils s'enlaçaient dans la rue, tout
ça. C'est
incroyable,
c'est
ce
magique,
qu'on peut voir.
C'est magique, en fait. Il y a une forme de liberté, ça, c'est
de
super.
De liberté, ouais.
Voilà. Et peut-être, je dirais, par rapport à chez nous, un moindre jugement.
Là-bas, tout est normal et
Absolument.
C'est bien comme ça aussi.
Oui.
Et j'ai souvenir aussi que les feux rouges là-bas te parlaient et que les gens avaient les aspirateurs dans le dos comme un sac à dos.
Ah,
je me souviens.
Mais oui, ceux qui nettoyaient, effectivement.
Et en fait, l'ombre des arbres était de l'autre côté de chez nous.
Oui.
Et aussi dans le lavabo, quand l'eau tournait, elle tournait dans l'autre sens.
J'ai pas fait attention à ces
détails. Moi, je sais que j'ai fait des reportages pour la télé, donc il fallait faire un peu la différence des deux pays, et ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a parlé, tout ça. Quoi,
moi, c'est surtout la conduite de l'autre côté.
Et après, les gens que je croisais dans la rue me disaient, quand on parlait un peu le Frenchie, ils disaient, ah, c'est... Monet, j'adore les Français, ils sont beaux, ils sont magnifiques.
C'est vrai qu'on a souvent, ils apprécient les Français souvent.
Ouais.
Mais souvent quand ils nous demandent d'où on vient très rapidement, vous venez de Paris? Parce qu'il y a souvent Paris qui leur revient, mais non, il y a bien au-delà de Paris.
Mais alors tu n'as pas voyagé qu'en Australie, parce que t'es aussi, on va en parler, t'étais au Vietnam, en Inde, l'Afrique... C'est extraordinaire tout ce que tu as fait.
Oui.
Tu as chaque fois vendu des choses partout dans les marchés?
Alors non, pas du tout. Au contraire, justement, j'ai vraiment utilisé mon visa en Australie pour travailler et gagner mon argent. Et ensuite, je partais. Donc voilà, j'ai mon visa qui tournait en Australie. Et ensuite, j'ai décidé de partir 2-3 mois en Asie. Donc, je parcourais au moins un pays en un mois à chaque fois minimum pour bien un minimum le découvrir.
Le Vietnam, par exemple, tu étais?
Le Vietnam, j'étais. Bah, le Vietnam, c'est rigolo. Je suis allée, j'ai demandé à ma maman et mon grand frère qui n'ont jamais voyagé à l'autre bout du monde ni au-delà de l'Europe de me rejoindre. Donc, ils ont parcouru tout le Vietnam avec moi en sac à dos. Après, oui, j'ai fait l'Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, les Philippines, la Mongolie, qui est le voyage qui m'a le plus marqué d'ailleurs.
On en parlera un peu plus tard de tout ça. Ouais.
Et voilà, plusieurs pays asiatiques, effectivement.
Et tu étais aussi en Afrique noire, en Afrique, dans les dunes, tu as vu des villages ensablés, comme
oui,
ça.
Oui, alors l'Afrique, j'aimerais l'explorer un petit peu plus tardivement, mais effectivement, j'étais plus au Maghreb, Afrique noire. J'ai fait le Maroc avec ma maman et mon
Maroc,
frère aussi, c'est marrant.
Le sud du Maroc, tu as été?
Non, enfin j'étais à
près de la frontière.
Non,
t'étais pas aussi loin.
Le Maroc, j'ai pas autant exploré pour l'instant, mais l'Afrique, c'est vraiment un continent que j'adorerais explorer.
Ah ouais, l'Afrique, ça te laisse des souvenirs extraordinaires.
Oui, je pense.
C'est là où on peut raconter la nuit, tu peux cueillir là justement.
Là,
on peut cueillir les étoiles la
dormir
nuit, tellement la Voie lactée. T'as l'impression qu'ils poussent dans le ciel, quoi.
Oui,
tu vois.
Complètement. Et on peut dormir au milieu du désert là-bas.
Et sans danger.
Tout à fait.
Bon, des fois, tu as des chameaux qui viennent te voir la nuit et qui te lèchent le visage.
Oui, je l'ai fait en Inde. J'ai dormi en plein milieu du désert, en pleine nuit, effectivement. Et au réveil, on a ouvert les yeux avec une amie en pleine nuit. On s'est dit, oh, il y a des chameaux. Alors qu'on voyait que les étoiles, il n'y avait rien.
Et quel est le voyage que tu gardes en mémoire, quel est celui qui t'a le plus marqué? Quel pays a le plus marqué?
Alors, ouais, j'en parle beaucoup, mais la Mongolie, hein, mine de rien, c'est le pays qui m'a...
Donc, tu es allé du froid bouillant
Tout à fait.
À des ambiances glaciales, par du moins 30. Raconte-moi un peu la Mongolie.
Tout à fait. Je revenais des Philippines, donc il faisait 35 degrés. Je suis arrivée en Mongolie, il en faisait moins 30.
Et c'est facile d'aller là-bas, en Mongolie?
Alors, c'est très facile, oui, d'aller là-bas. Bon, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'y suis allée hors saison, donc c'était le plein hiver. Effectivement, je n'ai pas vu un seul touriste en un mois. J'avais un petit peu regardé sur les réseaux sociaux, via Facebook, trouver des filons un petit peu, mais je ne voulais pas passer par agence. Donc, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'a amené chez un nomade et chez lequel j'ai vécu pendant quasiment un mois, effectivement.
Dans des yourtes? Tu l'as dormi dans des yourtes?
Alors, malheureusement, non, il n'avait pas, lui, une yourte. Il avait une cabane rudimentaire. Et en été, il mettait des yourtes sur son jardin pour les touristes, pour essayer de subvenir à ses besoins. Mais on avait donc ses chevaux, on prenait ses
c'est
chevaux.
C'est les petits chevaux tout petits, là,
tout
les
petit,
trapus.
Tout petits, tout trapus.
Qui sont tout doux, là, quand tu...
Écoute, ils sont doux, André, mais ils ont une vitesse de course qui est incroyable. Écoute, je pense que là-bas...
C'est parce qu'ils mangent la neige?
Je pense, oui. Ils mangent de la bonne viande, de la bonne neige.
Ah ouais.
Et ouais, non, ils sont hyper habillés.
Mais alors, t'étais habillée comment quand t'étais là-bas? T'avais des grosses doudounes, le mec qui t'a donné un habit spécial?
Alors, effectivement, quand je suis arrivée au marché à Oulan-Bator, je me suis équipée hein, avec des choses du coin, avec des habits en fourrure, des choses très épaisses, des bottes de compétition.
L'habit traditionnel, tu veux dire?
Et l'habit traditionnel, je l'ai porté également donc chez Bor, l'autre chez qui j'ai vécu, il s'appelait Bor. Il m'habillait, donc dès qu'on partait à cheval dans ce grand manteau traditionnel, donc il enfile au-dessus de toi, il est fourré en plusieurs poils. Hein,
des poils de quoi?
Des poils de yak, il y avait des poils de chameau aussi, ils utilisent. Mais même.
Ça devait faire 30 kilos, non? Le manteau.
Ouais, pas loin. Mais en fait, il te le noue très très serré au niveau de la taille pour que tu portes pas tout le poids. Donc, c'est-à-dire que tu portes une partie
au niveau
de la taille.
Pour répartir le poids,
ouais. Exactement. Et en fait, c'est vraiment bien fait. Avec une chapka, et quand tu es sur ton cheval, ça te recouvre carrément les jambes, quoi. Et tu peux galoper, le cheval, il te porte avec ce manteau sans problème.
Et t'as fait ça de temps en temps? T'es parti à d'autres chevals?
Absolument, on partait à d'autres chevals, on allait voir souvent les copains de bord, donc dans les yourtes, on allait boire le thé, donc c'était très traditionnel.
C'est du thé comment? C'est du thé avec du lait de yak? Non,
alors en hiver, c'est différent d'en été. En été, tu bois le lait de jument, et en hiver, tu bois du lait de vache, qui est donc on le met dans une espèce de grande marmite, du lait de vache qui est bouilli avec du thé infusé et du sel. Donc c'est du thé au lait salé. Écoute, j'ai trouvé ça très bon.
Ah ouais?
Vraiment très bon. Donc voilà, c'est très traditionnel. Et oui, effectivement, on partait avec les chevaux, on allait galoper au milieu milieu des steppes. On allait voir les frères, les sœurs de bord dans les yourtes voisines. Donc pareil, moi j'ai dû m'adapter aux traditions. Je devais pas, par exemple, à l'entrée de la yourte, tu dois pas mettre le pied sur le bout de bois du bas de la porte. Tu dois aller sur la gauche. Tu dois
pourquoi
pas passer...
Parce qu'il y a des
voilà, il y a des traditions. Il y a du respect à avoir aussi. Quand tu reçois, par exemple, le thé d'accueil chez quelqu'un, tu le reçois toujours avec une main et pas l'autre, en te tenant le coude de la main opposée. Enfin, c'est très traditionnel.
Ouais. Et pourquoi ils sont superstitieux ou...
Ils sont, oui. Je pense qu'il y a ce côté un peu peut-être superstitieux. Il y a cette culture, bon, chamanique, c'est encore autre chose. Mais voilà, ils sont...
T'as vu des chamans aussi
J'en ai pas vu, moi, directement, non. Ça, j'aurais dû aller un petit peu plus voilà, dans le nord et dans d'autres parties de la Mongolie. Mais j'ai eu l'occasion, pour le coup, d'acheter une peau de renne de chaman, justement, que j'ai ramené en France. C'est la seule chose, indirect que j'ai eu avec les chamans.
mais ce grand froid, tu l'as supporté, ce moins 30 ?
Écoute, oui, je l'ai supporté. Alors, je pense qu'il y a un conditionnement déjà mental, hein, ça, avant toute chose. On sait qu'il va faire froid, donc déjà, on s'équipe, évidemment. Voilà, on chipote pas au moindre froid. Et oui, j'étais, comme dit, bien équipée. Voilà, en mouvement aussi. C'est important d'être tout le temps dans le mouvement parce que forcément, si on est statique à moins 30,
ouais, tu peux pas.
Voilà.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'à peine sorti, on a les petites stalactites sur les cils, des choses toutes bêtes. Mais alors là, c'est une petite anecdote toute bête. Mais quand on allait faire pipi dans la petite cabane qui était dehors, ils nous donnaient toujours une petite lingette. À peine sorti, la lingette était dure.
Génial.
Tu vois, c'est des petites anecdotes. Ouais.
Tu as vécu des moments extraordinaires.
C'était extraordinaire.
Et alors, tu m'as aussi raconté un jour, quand j'étais au marché, tu m'avais raconté que tu avais chassé les loups. Oui. Raconte-moi cette anecdote, c'est génial.
Exceptionnel.
Ça.
Écoute, exceptionnel. Donc, Bor, mon hôte, avait une équipe de chasseurs. Et effectivement, alors, il parlait ni anglais ni français, mais on se comprenait avec des petits mots. J'ai cru comprendre qu'en pleine nuit, on allait chasser. Moi, il m'avait montré sa carabine à peine arrivée. ça peut paraître angoissant, mais pas du tout. Et en fait, il m'a fait comprendre cette nuit, on va chasser. Donc, il m'a réveillée en pleine nuit. Il m'a dit, équipe-toi. Et je suis sortie de son petit cabanon. Et là, devant moi, j'ai vu des gros 4x4 avec tous ses copains chasseurs équipés. Et moi, je suis sortie toute seule et j'ai dit « Hello !» Et ils m'ont tous regardé. Et ils ont regardé mon hôte et ils ont dû se dire « Mais c'est qui celle-là? Elle sort d'où ?» Et effectivement, toute la nuit, on a chassé le loup. Donc voilà, on a chassé le loup à travers les steppes. On les a vus au loin. Moi, je ne comprenais pas trop. À un moment, ils étaient prêts à tirer. Finalement, ils n'ont pas tiré. Je
comprenais pas le mongol. T'as vu une meute de loup ?
Pas une meute, non. Malheureusement, j'ai pas vu une meute. J'en ai vu au loin, mais si tu veux, j'ai même pas vu la forme et l'ensemble du loup. J'ai vu les yeux qui se reflétaient sur la lumière.
Oui.
Malheureusement.
Mais pourquoi ils les chassent? Pour protéger les animaux ou...
Alors non, je pense que là-bas, c'est vraiment vital. Je pense que la chasse, c'est vraiment pour se nourrir, pour utiliser la fourrure.
Ah, parce qu'ils mangent la viande.
Et ils mangent aussi la viande, ouais.
Ah ouais.
Ouais. Et je pense que c'est aussi pour la fourrure aussi. Voilà, ça doit être un ensemble, mais c'était une aventure exceptionnelle. Et donc, on a chassé toute la nuit, au petit matin, au lever du soleil, tous ensemble.
Waouh, ça doit être quelque chose.
Ouais. Ah, c'est magnifique. On a bu un shot de vodka pour se réchauffer et sincèrement, l'effet a été incroyable. C'était pas du tout autour de l'alcoolisme, c'était juste boire un shot de vodka pour se réchauffer.
Ah ouais.
Et après, voilà, on a continué.
Tu faisais des feux de bois aussi dehors, tout
ouais,
ça.
Ouais, des feux de bois aussi.
Quelle vie.
Enfin, voilà, c'était...
C'est l'aventure, quoi.
C'était merveilleux.
Ah ouais. Ouais. Et ça te manque pas, cette aventure, le fait d'aller à l'autre bout du monde?
Alors si,
tu as une autre vie aujourd'hui, tu as...
Alors j'ai une toute autre vie aujourd'hui, j'ai plein d'autres projets, notamment à Marlenheim, de faire un bistrot dans les vignes, voilà, ça c'est mon
bonne
projet
idée,
pour cet été.
Avec ton papa?
Avec mon papa et mon compagnon Julio, oui, tout à fait. On a l'occasion de louer une petite parcelle de vignes dans Marlenheim sur 3 étages, avec un petit caveau, et donc on va acheter un petit food truck et on va faire un petit bistrot champêtre qu'on appellera dans les vignes.
Avec toi, il n'y aura pas de problème. C'est une réussite à 2000%.
Oui. On a déjà fait à petite échelle l'année dernière sous couvert d'un copain de mon papa. Mais là, cet été, on va le faire nous-mêmes tout seul.
Et tu penses que tu vas abandonner le vin alors? Tu vas arrêter?
Non, du tout.
Tu pourras faire allier les deux. Tu peux faire les deux.
Oui. J'ai vraiment pour but, en fait, j'ai toujours eu pour but, si tu veux, de travailler fortement en haute saison. Donc voilà, la période estivale chez nous. Et d'essayer de m'octroyer justement en hiver 1 mois, 2 mois pour voyager. Donc en me faisant remplacer sur les marchés toujours, mais j'ai pour but de garder les marchés et de faire ce bistrot champêtre en haute saison.
Et d'aller voyager, et l'envie c'est d'aller où? Tu aimerais aller faire quoi?
L'envie d'aller...
T'as déjà tout vu, non?
Non, alors loin... Oh non, alors j'adorerais l'Amérique du Sud, évidemment. Là, je pars dans 1 mois et demi, j'emmène mon papa à sac à dos en Indonésie.
Ah, tu pars avec ton papa?
Oui, j'ai aussi envie
de l'emmener
faire,
un peu. Ouais.
De l'emmener au-delà des frontières de l'Europe.
C'est génial, ça te paraît dire avec son père.
Oui, je pense qu'il ne faut pas perdre de temps. Il a eu des hauts débats dans la santé. Bon, ça, c'est une parenthèse. Et je pense que c'est maintenant ou jamais qu'il faut profiter de ces moments-là. Tout à fait.
Oui, c'est bien. Alors, Sophie, moi, j'ai l'impression que tu es un bout de toutes ces personnes que tu as rencontrées sur tous tes voyages. Et en fait, c'est pour ça que tu as cette chaleur en toi, cette gentillesse, cette bienveillance, cette bonté.
Oui, c'est possible.
J'ai l'impression que ça vient de là, quoi.
Oui, c'est possible.
Parce que, comme on a dit tout à l'heure, voyager, c'est d'avoir un autre esprit,
ouais,
d'être humble, d'être près de l'autre, de partager.
Tout à fait.
Je sais qu'un jour, c'est une petite phrase qui me revient assez souvent à l'esprit. Un jour, j'ai eu la chance d'aller faire un tournage pendant 5 jours quand j'étais un jeune caméraman à Paris. Je suis allé rencontrer l'abbé Pierre.
Oui.
Tous les jours, on s'est vu pendant 5 jours. Et tous les matins, il me demandait, et vous, jeune homme, vous, jeune caméraman, tu as fait quoi pour l'autre aujourd'hui, tu vois? J'ai l'impression que c'est ça aussi, toi. Tu es bienveillante avec les gens. C'est pas que juste vendre du pain. Il y a autre chose derrière tout ça, quoi.
Oui.
Parce que tu les appelles, comme on disait tout à l'heure, tous par leur prénom.
Oui.
Les enfants, tu les connais. Tout.
Oui, c'est vrai que je les connais bien. Et je pense que la bienveillance, tu as bien résumé. Pour moi, c'est un mot qui devrait, pour beaucoup, nous guider, c'est vrai. C'est très, très important. Et comme tu dis, ce qu'on donne à l'autre, on le reçoit aussi en retour. Donc, on fait pour les autres. Alors, on ne fait pas pour attendre, mais je veux dire, je parle juste d'un sourire ou juste d'une forme de politesse. Déjà, rien que ça, minimum. Tout le monde n'aime pas sourire, mais juste être poli, être courtois. Mais sourire, c'est magique, quoi. Sourire.
Ouais, mais c'est très beau ce que tu dis et je ressens un peu la même chose. Je sais aussi que tu as un succès parce que tu vends du pain bio également.
Oui.
Est-ce que le bio est toujours très à la mode en ce moment?
Oui.
Parce qu'on le montre un peu du doigt quand même dans les supérettes et la grande distribution. Ils sont en train de s'accaparer.
Malheureusement, c'est devenu un peu une tendance, j'ai envie de dire. Et il y en a qui font du bio par principe pour avoir gagner encore plus d'argent. Mais il y en a qui le font dans les mauvaises règles. Et je pense que c'est important quand on fait justement... Moi, personnellement, j'accorde beaucoup d'importance aux producteurs qui se lancent en bio, mais qui vont chercher leurs produits à des endroits raisonnés, qui vont vraiment avoir une démarche qui est bonne de A à Z, où il y a l'amour aussi du produit.
Oui, c'est ça. Mais il y a aussi des magasins qui sont installés comme bio et quelque chose, là on ne va pas trop les citer,
bah,
ils sont tous morts aujourd'hui, ils sont tous fermés leur maison,
ouais,
parce qu'ils voulaient faire du chiffre. Et ils n'en avaient rien à faire des produits, ce qu'ils vendaient. Eux, c'était d'en mettre plein la poche.
En mettre plein la poche, et je pense que c'est important, on a tous besoin d'un revenu nourricier dans la vie, évidemment, eux et nous tous, mais c'est important quand même de rester dans l'honnêteté, dans la transparence dans le bio aussi.
La grande distribution, tu penses que les gens là-bas sont honnêtes, c'est des gens qui veulent faire de l'argent.
Quand
tu vois qu'ils ont fait mourir quasiment toutes les boucheries.
Mais je sais.
Ah, c'est quand même incroyable.
Je sais. Alors moi, je suis un monde de bisounours,
Le petit commerce de proximité a vraiment souffert. Hein.
Tout à fait.
Et toi, tu habites du côté de Marlenheim, alors?
Oui, j'habite à Marlenheim, tout à fait.
C'est sympa là-bas. Tu dors aussi dans des yourtes là-bas?
Alors non, je dors pas dans les yourtes, malheureusement.
Tu dors dans un vrai lit, quoi.
Mais tu sais que j'ai déjà pensé, André. Hein. J'ai déjà pensé ou à une yourte ou à faire une petite cabane en forêt. Ben, j'en ai même déjà parlé au maire de Marlenheim d'éventuellement construire une petite cabane au milieu de la forêt. Et là, on aimerait notamment restaurer un petit logement insolite au milieu du vignoble de Marlenheim.
Ah, c'est bien ça.
C'est une petite maison vigneronne qui est existante.
Une cabane dans le vignoble.
Alors c'est pas vraiment une cabane, c'est une maison vigneronne qui est existante, mais on aimerait pouvoir proposer ça en logement insolite parce que le propriétaire c'est un très bon ami à la famille qui serait prêt à suivre le projet. Donc voilà, plein de projets qui fuient.
C'est génial, mais il faut avancer avec des projets.
Oui. Hein, et donc rénover ça avec mon compagnon qui est très doué en rénovation, moi-même, et en mettant main à la pâte. Parce qu'on apprend en rénovant en plus. On apprend plein de choses.
Et tu aimes bien faire ça.
J'adore.
Tu aimes bien maçonner, je crois, tu m'avais dit.
Alors maçonner, maçonner.
Non, mais tu aimes travailler avec tes mains.
J'aime apprendre avec mes mains. Alors je suis plus...
Bricoler, genre, je veux dire, voilà.
Bricoler. Je pense que je suis plus une suiveuse dans ce domaine-là. C'est-à-dire que quand on m'explique comment faire, moi je vais faire derrière, effectivement. On retape aussi une maison, je retape avec mon papa une maison à Marlenheim dans laquelle on vivra plus tard, justement.
J'ai l'impression que tu me parles déjà 2-3 fois de ton papa et c'est très bien, je trouve ça génial.
Oui.
Je trouve que ton père, c'est un peu ton héros.
Oui, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré.
Ouais, c'est génial.
Beaucoup,
c'est chouette.
Porté dans la vie, ça, c'est une certitude.
Bah, écoute, Sophie, je suis très content aujourd'hui. Notre émission se termine. Je crois qu'il faut arrêter. On était très, très contents ici à Radio Judaïka de reparler avec toi, de te retrouver ici devant les micros.
Bah, moi aussi.
Bonne année à toi, 2024, beaucoup de projets, et puis garde ton sourire au marché, c'est essentiel.
Eh ben merci André, merci de m'avoir accueilli, merci Thomas et toute l'équipe, et merveilleuse année à toi. toi aussi.
Et ah, c'est gentil à
reste
toi.
Comme tu es, continue de venir me voir avec ton beau béret et ton super, ton super vélo. J'adore.
Merci. Générique de fin, mon Thomas.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée.